prions. Seigneur, nous sommes bien conscients que nous sommes insuffisants et terriblement dépendants de toi. C'est pour ça qu'en ces instants, nous voulons nous asseoir à ta table, où nous voulons écouter ta parole, où nous voulons nous mettre à tes pieds. Nous voulons te demander, Seigneur, que ton esprit nous dirige en toutes choses. Lui qui est l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité, lui qui est l'esprit qui glorifie Jésus, l'esprit qui parle de ce qu'il a entendu, que cet esprit nous dirige et nous conduise en ces instants, qu'il nous fasse entendre ta voix, qu'il nous fasse comprendre ta volonté et qu'il nous fasse entrer en communion avec toi. Nous te remercions pour ta présence, nous te remercions pour ton amour que tu répands au milieu de nous et nous nous recommandons à ta grâce pour ces instants. Préside à toutes choses et instruis-nous, nous t'en prions. Amen. Ce matin, nous allons lire trois textes qui se trouvent tous dans le Nouveau Testament, en tout cas trois passages. Le premier, ce sera un seul verset dans Romains chapitre 14, verset 19. Romains 14, 19, il est dit « Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. » Un deuxième texte dans Éphésiens chapitre 4, et là les versets 11 à 16. Éphésiens 4, versets 11 à 16. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes ses articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Et le dernier texte dans le livre de Jude, donc Jude n'a qu'un seul chapitre, donc le verset 20 du livre de Jude, Jude 1, 20. C'est juste avant Apocalypse, pour ceux qui... Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte, priez par le Saint-Esprit. Ou d'autres versions, mais vous, mes chers amis, édifiez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Amen. Alors, tous ici, en tout cas la majorité d'entre nous ici, nous connaissons ce qu'on appelle le test de la passoire. La plupart d'entre nous, on le connaît, on a déjà entendu cette histoire, et c'est une histoire bien connue, et pourtant, même si elle est bien connue, elle est toujours bien utile à rappeler, parce que, même si c'est une sagesse qui est non chrétienne, une sagesse profane, c'est une sagesse bien utile. Le test de la passoire, c'est le test de Socrate. Une personne vient dire à Socrate, j'ai quelque chose à te dire sur ton ami, une information à te donner sur ton ami. Et Socrate lui dit, avant que tu me dises ce que tu as à me dire sur mon ami, je vais te faire passer le test de la passoire. Et l'autre lui dit, c'est quoi le test de la passoire? Et bien il dit, oui, c'est important, quand on entend une information, de toujours la trier, de la faire passer dans la passoire. Et donc il commence le test et il lui dit, première question, est-ce que ce que tu vas me dire est vrai? Et l'ami lui répond, écoute, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire ça sur ton ami, donc je ne sais pas si c'est vrai, je ne saurais pas le vérifier, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, premier test. Et puis deuxième test, il lui dit, ce que tu voudrais me dire au sujet de mon ami, est-ce que c'est bien? Alors l'autre lui dit, non, c'est pas bien du tout, au contraire, c'est vraiment quelque chose de pas bien, de pas positif, de pas agréable. Non, bien, ce n'est pas bien. Et puis, Socrate lui dit, d'accord, et une dernière question, est-ce que ce que tu as l'intention de me dire sur mon ami est utile? Et l'autre de dire, non, pas vraiment, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Et alors, Socrate conclut en lui disant, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi voulais-tu me le dire? Pourquoi voulais-tu me le dire? Le test de la passoire. C'est un test bien connu, et ce n'est pas un test qu'on trouve dans la Bible, mais c'est une sagesse à laquelle on ne peut pas échapper, on ne peut pas échapper au caractère tellement sage de ce test qui nous invite à étudier ce qui nous est dit au regard de ces trois critères. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est utile? Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est rechercher ce qui édifie. Rechercher ce qui édifie. Ou alors, choisir ce qui édifie. On est dans une série sur la maturité chrétienne, et rappelez-vous qu'on a vu une première caractéristique du chrétien mature, c'est avoir le bon focus, avoir la bonne référence, Jésus. Jésus est la référence de ma foi. Une deuxième caractéristique qu'on a donnée la semaine passée, c'est que le chrétien mature sait gérer sa liberté. La liberté que Dieu lui donne, il sait la gérer correctement, sagement, selon la parole de Dieu. Et puis, troisième caractéristique qu'on va voir aujourd'hui, le chrétien mature est un chrétien capable de chercher, de choisir ce qui édifie. Rechercher ce qui édifie. Alors, le terme édifier, il peut avoir trois grands sens qu'on utilise et qu'on connaît bien. Le premier sens d'édifier, on le connaît, c'est le sens de bâtir quelque chose. Bâtir quelque chose, on dit qu'on va édifier un bâtiment, par exemple. On dit qu'on va édifier une théorie. Édifier une théorie, c'est-à-dire réfléchir, mettre en place, construire une théorie. On dit qu'on peut édifier une société. Quand on veut créer une société, on dit « je vais construire, je vais édifier une société ». On peut dire « nous allons édifier un groupement politique ». Nous allons construire un groupement politique. On peut dire « nous allons édifier un empire ». Édifier un empire, ça veut dire « on construit quelque chose ». D'ailleurs, dans les films amoureux, quand ils tombent amoureux l'un de l'autre, ils disent « viens avec moi et je vais avec toi édifier notre empire ». Vous n'avez jamais entendu ça? Ben si, c'est pour dire on va avoir plein d'enfants, on va acheter une grande maison et ce sera notre empire. Ouh là là. Donc ça, c'est le premier sens, le sens de bâtir quelque chose. Un deuxième sens de édifier, c'est exercer une influence positive sur quelqu'un. On dit souvent ça dans un sens moral, c'est édifier une influence positive sur quelqu'un. Et l'expression qu'on connaît bien, c'est quelqu'un dont on va dire « la discussion a été édifiante ». On va dire, ça se dit dans un vocabulaire un peu plus châtié que celui de Jumé Goïssard, mais bon, ça se dit. Une discussion édifiante, c'est-à-dire une discussion qui a eu une influence positive, qui a été agréable, qui a construit, qui a apporté quelque chose. Et puis un troisième sens du mot édifier, c'est éclairer quelqu'un, instruire quelqu'un. Et donc, par exemple, on pourrait dire aussi, dans un vocabulaire châtier, pour ton édification personnelle, je t'apprends que Napoléon est mort en... Voilà. Je ne sais pas quand il est mort. Mais il est mort, ça c'est sûr. Mais, donc, ça c'est... On éclaire quelqu'un, on instruit quelqu'un sur un sujet ou sur un autre. Et dans la Bible, le terme édifier, le verbe édification, est un verbe qui est très utilisé dans le Nouveau Testament, de nombreuses, nombreuses fois. Ce qui édifie, c'est ce qui fait grandir. Ce qui édifie, c'est ce qui fait avancer. Ce qui fait progresser. Ce qui édifie, c'est ce qui construit. Ce qui édifie les autres, ce qui édifie le corps, ce qui édifie une institution. Ce qui édifie, c'est ce qui porte à la vertu. Quelque chose qui amène à plus de vertu. C'est ce qui fait avancer, ce qui fait construire, ce qui fait grandir, ce qui fait progresser. Édifier, c'est faire comprendre aussi quelque chose à quelqu'un. C'est éclairer quelqu'un. Et en éclairant les autres, c'est construire quelque chose. Édifier, dans un sens spirituel, c'est grandir dans la foi. Édifier l'autre, c'est le faire grandir dans la foi. L'édification. Rechercher ce qui édifie, ce qui construit, ce qui fait progresser, ce qui fait avancer, ce qui fait élever, ce qui amène plus loin. Et dans la Bible, enfin dans les textes, trois textes que nous avons lus, nous avons en fait vu les trois grandes directions que peuvent prendre l'édification. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le premier texte, nous avons vu, enfin c'est le troisième, celui de Jude, nous avons vu que, premièrement, il est question de, un, s'édifier soi-même. Il dit « édifiez-vous vous-même sur votre foi très sainte ». Premièrement, il faut s'édifier soi-même. Deuxièmement, il faut, comme on l'a lu dans Éphésiens 4, édifier le corps. Et c'est comme si on disait édifier l'Église, édifier l'institution. Et puis, dans Romains 14, 19, là, on voit qu'il faut édifier les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Premièrement, s'édifier soi-même. On ne sait pas édifier les autres si on ne s'édifie pas soi-même. On ne sait pas édifier les autres si on ne s'édifie pas soi-même, si on n'est déjà pas soi-même dans un processus où on s'édifie. On a lu la semaine passée, quand on parlait de la gestion de la liberté, on a lu ce verset qui dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire que premièrement, le chrétien mature est un chrétien qui va chercher à s'édifier lui-même. Il va chercher ce qui le fait progresser lui, ce qui le fait avancer, ce qui le fait grandir, ce qui le fait aller de l'avant. Ça suppose une chose. Pour s'édifier soi-même, il faut rejeter tout ce qui n'est pas utile. Il faut rejeter tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui ne sert pas. Myriam pourrait vous en parler, puisqu'elle ne supporte pas les choses qui ne sont pas utiles. Si vous voulez l'énerver, amenez-lui plein de bibelots et vous lui dites, ben, tu les mets sur ta buanderie. Elle va vous dire, non, ça ne sert à rien, je ne veux pas de ça chez moi. Parce que ce n'est pas utile. Alors, au contraire, il y a des gens qui aiment bien, à force des images et des... Ça, c'est des choix de vie, n'est-ce pas? Mais donc, pour s'édifier soi-même, il faut être capable de rejeter ce qui n'est pas utile pour nous. Deuxièmement, il faut être capable de rejeter ce qui est nuisible. Parce qu'une chose peut être inutile, mais il faut aussi être capable de rejeter ce qui est nuisible, ce qui est toxique, ce qui est destructeur pour nous. Et enfin, s'édifier soi-même, c'est être capable de s'attacher à ce qui produit quelque chose, à ce qui apporte quelque chose, à ce qui fait progresser, à ce qui fait avancer, à ce qui nous donne quelque chose. L'apôtre Paul a énormément parlé à ses deux collègues apprentis, Timothée et Tite, dans les épîtres pastorales, de cette importance de rejeter tout ce qui n'édifie pas. Et le nombre de fois où c'est dit dans Timothée est même impressionnant. 1 Timothée 4, verset 7, « Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété. » Repousse les contes profanes et absurdes.
C'est comme si on disait la mythologie, enfin, les histoires qu'on raconte et qui sont fausses.
1 Timothée 6, 14, il parle de l'homme qui n'est pas approuvé par Dieu. Il dit, cet homme-là, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots.
Les questions oiseuses, c'est les discussions qui ne servent à rien.
Et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les guerres, les calomnies, les mauvais soupçons.
Donc de ces discussions qui ne servent à rien, de ces disputes de mots, naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons.
2 Timothée 2, 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Repousse les discussions folles et inutiles. 2 Timothée 2, 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. 1 Timothée 1, verset 4, et dis-leur de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Tite 3, verset 9, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Quand on voit à quel point l'apôtre insiste pour ce jeune serviteur, ce jeune responsable de l'église d'Éphèse, pour qu'il repousse tout ce qui n'est pas utile, pour qu'il repousse tout ce qui peut créer de la querelle, pour qu'il repousse tout ce qui ne fait pas progresser dans la foi, on voit à quel point c'est essentiel pour nous, en tant que personne, pour nous, en tant qu'Église, d'apprendre à rejeter tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui est nuisible, tout ce qui ne fait pas avancer dans la foi. Nous sommes donc appelés, comme Jude 1 le dit, à construire notre propre vie, à édifier, à construire notre vie sur base de Christ, sur base de sa parole. C'est cette parole, c'est cet enseignement de Dieu pour nous qui est la base de notre vie, et c'est sur cette base que nous voulons nous édifier. Nous voulons édifier notre vie sur ces choses-là. Et 2 Pierre 3, 18 dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais croissez, édifiez-vous, croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le mot d'ordre pour s'édifier soi-même. Grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et l'expression ici, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est en fait la connaissance intime. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle de dire, ben oui, la Bible dit que. C'est en fait la connaissance personnelle de Dieu. La connaissance intime de Dieu, comme lorsqu'on dit Adam connut Ève. En fait, pour parler de leur relation intime. Donc, croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Le chrétien, c'est son objectif, il veut s'édifier lui-même, il veut grandir lui-même, il veut aller de l'avant, il veut progresser. Il ne perd pas de vue que Dieu lui donne cet objectif de grandir et d'aller toujours de l'avant. Je m'édifie lorsque je nourris mes pensées de ce qui est bon pour moi. Je m'édifie lorsque je nourris mes pensées de ce qui est bon pour moi. C'est Philippiens 4, 8 qui dit « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ça, c'est le programme d'une vie, ça. C'est le truc, peut-être que 3 secondes avant de mourir, on sera encore en train de... Mais c'est le programme d'une vie, mais c'est aussi le programme d'une santé émotionnelle. D'une santé émotionnelle. D'une santé psychologique. Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est profitable, que tout ce qui est positif soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire rejetons de nos pensées tout ce qui est faux, tout ce qui est inutile, tout ce qui est désapprouvé de Dieu, tout ce qui n'est pas aimable, tout ce qui est impur. Je m'édifie lorsque mes pensées sont tournées au bon endroit. Ces pensées-là m'édifient. Lorsque David dit à son âme, « Mon âme bénit l'Éternel », qu'est-ce qu'il fait ? Il s'édifie lui-même. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je m'édifie lorsque
j'entre dans une discipline dans laquelle j'essaie que mes pensées soient tournées vers Dieu. Je m'édifie lorsque je tue le vieil homme en moi et que je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie. Quand je dis au vieil homme, tu te tais, quand je le tue, quand je tue mes passions, mes envies, mes impuretés, quand je les tue et que je laisse davantage l'Esprit parler, se manifester, en fait, l'homme naturel, il vit avec une grosse voix qui est la voix de sa chair, de sa passion, et une petite voix qui est la voix de l'Esprit. Et le chrétien est celui qui crucifie le vieil homme pour que l'Esprit prenne davantage de place. Pour que l'Esprit prenne davantage de place et que cette place que l'Esprit prend en nous, nous édifie, nous amène à grandir. Je m'édifie lorsque je m'assieds avec des gens qui sont sages et qui craignent Dieu. Il y a des gens comme ça, il y a des chrétiens comme ça qui sont édifiants. Des chrétiens édifiants avec qui on aime rester, parce que quand on est avec eux, on se sent grandir, on se sent être édifié, on se sent avancer soi-même. Lorsque je demeure avec des gens, et c'est le psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs », quand je m'assieds avec des gens qui ont des paroles positives, des paroles bonnes pour ma foi, je m'édifie, je grandis. Je m'édifie lorsque je prends l'exemple sur des personnes qui peuvent m'amener à ressembler davantage à Christ. Je m'édifie lorsque je considère la parole de Dieu comme précieuse et que j'y cherche ma nourriture. Quand je considère la parole de Dieu comme précieuse et que j'y cherche ma nourriture, je m'édifie. Luther, Martin Luther, considérait que la parole de Dieu était le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu et de l'expérience de Dieu. Parce que la Bible n'est pas seulement le lieu de la connaissance de Dieu, où on peut parler de Dieu pendant des heures, mais comme on parlerait, si jamais moi je vous parle de Donald Trump, je ne le connais pas, je vous parle de Donald Trump. Mais la Bible, c'est pas seulement un livre pour parler de Dieu, c'est un livre pour rencontrer Dieu, pour faire l'expérience de Dieu. Luther disait donc, la Bible est comme une grande, immense forêt peuplée d'une multitude d'arbres de toutes sortes où l'on peut cueillir toute espèce de fruits. On trouve en effet dans la Bible force, réconfort, instruction, enseignement, appel, avertissement, promesse et menace. Il n'y a dans cette forêt un seul arbre que je n'ai secoué et d'où je n'ai cueilli ou fait tomber quelques pommes ou quelques poires. Un passionné de la parole de Dieu, Luther. Il dit, c'est une forêt et il n'y a aucun arbre dont je n'ai réussi à faire tomber une pomme ou une poire. La parole de Dieu est profitable pour nous, elle nous fait grandir. Je m'édifie lorsque je mets en place une discipline personnelle, lorsque je gère ma liberté, qui me permet de grandir. Je m'édifie lorsque je suis attentif à la prédication à l'église le dimanche matin. Je m'édifie. Lorsque je ne rate aucun mot qui est prononcé, je m'édifie. Parce que je me mets à l'écoute de la parole de Dieu et je grandis. Je m'édifie lorsque je prends conscience des besoins de mon âme et que je cherche à y répondre. Et je prends conscience de ce dont mon âme a besoin et que je cherche à y répondre. Je cherche les occasions au travers desquelles les besoins de mon âme vont être rencontrés. Peut-être que j'ai besoin de guérison intérieure. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre le pardon. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre à porter ma croix. Peut-être que j'ai besoin d'apprendre à prier. Lorsque je prends conscience de mes besoins et que je cherche à y répondre, je grandis. Je grandis, je m'édifie. Mais ce processus-là, il implique une grande humilité. Pour être capable d'être honnête avec nos besoins, avec nos difficultés, avec ce dont nous avons besoin pour grandir. On est parfois dans l'Église dans des situations où en fait nous voulons porter des masques et nous ne voulons pas être honnêtes avec nos besoins spirituels. Ce qui fait que nous restons des enfants, nous restons des bébés spirituels. Les disciples ont eu cette humilité de dire à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. » Aujourd'hui, dans les églises, il y a des gens qui ne savent pas prier, mais qui ne vont jamais demander qu'on les aide à prier. Et voilà, on n'est pas honnête avec ces difficultés. Il y a des gens qui, parfois, ne comprennent pas la Bible dans l'église, qui disent des versets, qui disent « je ne comprends pas », mais ils ne vont jamais aller demander qu'on leur explique. Je m'édifie lorsque je suis honnête avec mes besoins. Et lorsque je cherche ce qui peut répondre à mes besoins. Je recherche ce qui est profitable pour mon âme. Et vous connaissez, on avait déjà parlé de la parabole des petits cochons, vous vous rappelez? Globalement. En tout cas, l'idée c'était qu'il faut bâtir sa vie sur Jésus. Voilà. Et Jésus c'est la maison en briques. Ça va? Vous avez compris?
Oui.
Bon, premièrement, je dois m'édifier moi-même. Deuxièmement, je dois édifier les autres. Édifier les autres. 1 Thessaloniciens 5:11 dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. » Édifiez-vous les uns les autres. Romains 14:19 qu'on a lu « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » L'édification des autres est un but important dans l'Écriture. On se rappellera par exemple que c'est un des buts de la prophétie, exhorter, consoler, édifier. On connaît ce verset de Éphésiens 4:29 qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Parole, une parole qui sert à l'édification et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc la Bible, le Nouveau Testament est centré sur cette idée, il faut que ça édifie, il faut que ça fasse progresser, il faut que ça soit profitable à l'autre. Notre foyer même, dans la Bible, est invité à être un lieu d'édification, un lieu de progrès, un lieu d'avancement. Vous connaissez Deutéronome 6, 7 qui dit « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Ça veut tout dire, ça. Quand je suis en voyage, quand je me lève, quand je me couche, ça fait globalement toute mon existence. Donc, on est appelé, dans l'Église, dans notre famille, à créer des atmosphères édifiantes, des atmosphères qui nous font grandir, qui nous font croître au travers de la parole de Dieu, au travers du partage que nous nous faisons de ce que nous vivons avec le Seigneur, de ce que nous comprenons de la parole de Dieu, de nous édifier les uns les autres, et que ce soit des lieux où l'on grandit, des lieux où l'on progresse. Et comme les adolescents, quand ils sont dans leur période de croissance, ont mal parce que les os sont en train de pousser, ça peut faire mal, ça peut être difficile. Mais nous avons l'occasion d'être dans des atmosphères d'édification, des lieux, des maisons où, quand on est là, on se sent progresser, on se sent grandir, on se sent comprendre de nouvelles choses, on se sent avancer, on sent que l'autre à côté de nous veut nous faire avancer dans la foi et dans la vérité. Il y a deux grandes façons d'édifier les autres. Deux grandes façons. Première façon d'édifier, c'est édifier par les paroles. Et deuxième façon d'édifier, c'est édifier par l'exemple, par le comportement. On peut édifier les autres par les paroles qu'on leur dit. D'ailleurs, la Bible dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Donc même la louange que nous faisons est une édification pour les autres. J'édifie les autres au travers de mes paroles, mais aussi au travers des paroles d'encouragement, au travers de ce qu'on vit avec le Seigneur, au travers de ce qu'on comprend, au travers l'édification par la parole, par l'enseignement, par l'encouragement, on peut édifier les autres. Mais il y a aussi l'édification par l'exemple. L'édification par l'exemple. Notre attitude qui est édifiante pour quelqu'un. J'édifie déjà mon frère quand je suis présent au culte. Rien que le fait que je sois là, c'est déjà une édification pour les autres. Vous ne savez peut-être pas, mais un culte à 4 et un culte à 80, l'atmosphère n'est pas la même. Donc je ne dis pas que le nombre est important, mais il n'y a rien à faire. Quand vous avez à côté de vous l'Église, c'est la somme de nous tous. Quand on retire un élément à la somme, ben, y a un peu moins de... Chacun d'entre nous, nous apportons quelque chose à l'Église. Et chaque fois que nous sommes absents, nous faisons perdre quelque chose à l'Assemblée, de ce que nous sommes. Donc nous édifions aussi par l'exemple que nous donnons. Et chacun d'entre nous, nous avons des attitudes, des façons d'être, des caractéristiques qui édifient les autres. Moi, quand je vous vois comme ça, je vois plein de choses au travers desquelles je suis édifié par vous. Certains, c'est par leur persévérance, d'autres, c'est par leur sagesse, d'autres, c'est par leur endurance dans la difficulté, d'autres, c'est par leur douceur, d'autres, c'est par leur rigueur, d'autres, c'est... Chacun d'entre nous, par nos attitudes, nous édifions les autres. Par notre exemple, par notre façon de réagir à des situations, nous sommes des moyens d'édification pour les autres. Édifiés par l'exemple, parce que nous sommes édifiés par... Il y a des gens, il n'y a pas besoin qu'ils parlent beaucoup pour qu'ils soient édifiants. Quand on les voit agir, réagir, se comporter, il n'y a pas des gens comme ça que vous aimez bien être près d'eux. Non, ça, c'est pas... restez là où vous en êtes. Il y a des gens comme ça qui sont, je veux dire, ils sont pas descendus du ciel, mais ils sont édifiants. On aime bien d'être avec eux, on aime bien d'être quand ils sont là, on aime bien les entendre, on aime bien. Parce qu'on sent qu'ils nous apportent quelque chose. Et c'est vrai aussi dans le domaine non chrétien. Il y a des gens qui vraiment peuvent avoir parfois des attitudes, des façons d'être. On se sent bien là, on a envie de... Et il y a aussi des gens qui sont... Moi, je connais des gens qui sont tellement intelligents, j'aime bien les écouter dans une discussion. Et quand je dis intelligent, je ne parle pas de l'université, tout ça, on s'en fiche. Je parle de l'intelligence humaine. Il y a des gens, quand ils parlent d'un sujet de société, ils sont intelligents. Quand ils parlent de ce qui se passe dans le monde, c'est intéressant. Une personne édifiante. J'édifie l'autre lorsque je suis capable de lui dire la vérité dans l'amour. J'édifie l'autre quand je suis capable de reconnaître ce qu'il y a de bon en lui. J'édifie l'autre quand j'apprends à comprendre les besoins des autres, à y répondre. Quand j'apprends à comprendre les besoins de l'autre et à y répondre. Nous, on disait ça au diacre avant. On disait, un diacre doit avoir un esprit diaconal. Ça veut dire qu'il doit toujours anticiper les besoins des gens. Apprendre à connaître les besoins des gens et à les devancer. C'est-à-dire le fait d'écouter le besoin de l'autre et de tenter d'y répondre. J'édifie l'autre lorsque je veille sur lui. J'édifie l'autre lorsque je choisis d'être son compagnon de route plutôt que son juge ou son accusateur. J'édifie l'autre quand je choisis de m'asseoir à côté de lui dans sa souffrance, dans sa peine, dans son péché, plutôt que d'être celui qui le juge, qui le condamne et qui l'amène à la prison. Et puis troisièmement, nous sommes appelés à édifier le corps, à édifier l'Église, à édifier la collectivité, le corps. Et on a lu le texte d'Éphésiens 4 qui nous décrit le rôle des ministères, ce qu'on appelle en général les cinq ministères, mais en fait, il n'y en a que quatre. Donc, on dit souvent les cinq ministères, comme on dit parfois, tu veux mes cinq ministères? Vous n'avez jamais entendu ça? Mais sortez un petit peu de chez vous, vous venez d'où, vous? Malédi, qu'est-ce que c'est de ça? C'est une façon de dire, si tu veux que je te gifle, tu veux mes cinq ministères? Bon, vous êtes des jeunes croyants hein, aussi. Mais en fait, il n'y en a que quatre, parce que le dernier, c'est un seul ministère. Pasteur et enseignant, c'est un seul ministère. Ce sont les deux facettes d'un seul ministère. Et quand on nous décrit cette œuvre-là, ce travail de l'Église, on nous dit que ce travail a pour but de faire croître le corps, de faire croître l'Église, de faire croître le corps du Christ. Et on nous décrit cette croissance... Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ.
C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, on n'a pas d'idée d'église anarchique ici, bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. On décrit l'église comme étant un lieu qui croît, qui grandit avec de la cohérence, avec de l'harmonie, avec de la coordination, hein, un peu comme un être humain qui n'a pas d'handicap, c'est un minimum coordonné ses gestes, hein, c'est harmonieux quand on agit. Et l'apôtre Paul, vous connaissez, dans 1 Corinthiens 14, 13, 14, il parle que de ça, quand il parle des dons dans l'Église. Il parle que de ça. Et je résume simplement par cette parole qu'il dit, 1 Corinthiens 14, 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. » Donc l'Église est un lieu où tout doit se faire pour l'édification. C'est le critère de la vie de l'Église, c'est le critère du culte. Tout doit se faire pour l'édification, pour la croissance, pour l'avancement. Il y a donc une orientation claire dans ce que nous faisons, une orientation claire dans la vie de l'Église, c'est qu'elle a pour but d'être édifiante, une Église où l'on s'édifie. J'édifie le corps lorsque je suis capable de souligner ce qu'il y a de bon dans l'Église, ce qu'il y a, le travail accompli dans ce qui est fait. J'édifie le corps lorsque je refuse de provoquer la dispute ou la division à cause de mon ego ou de mes opinions. Lorsque je refuse de provoquer la dispute à cause de mon ego ou de mes opinions. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un dictateur. Parce que quand je donne un enseignement, je ne laisse pas toujours l'occasion d'entendre des remarques. Alors les gens pensent que je le fais exprès parce que je ne veux pas être contredit. C'est pas parce que je ne veux pas être contredit, c'est parce que je ne veux pas que les temps d'enseignement deviennent des temps de débat qui n'édifient pas. Finalement, on tourne autour d'un sujet pendant 2 heures, et toi, qu'est-ce que tu penses? Et toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, qu'est-ce que tu penses? Et on sort de là, qu'est-ce que tu as compris? Je ne sais pas, j'ai entendu qu'on avait dit ça, et puis un autre a dit ça. Ça n'édifie pas. Dans l'Église, si quelqu'un se met à parler et dit quelque chose qui n'édifie pas, à quoi ça sert? Donc nous devons nous centrer sur cet objectif. L'Église est un lieu où on doit être édifié. On doit chercher ce qui édifie. Et pas tourner, comme l'apôtre le dit, on a lu les versets, rejette. Parce que sur des sujets bibliques, on peut rester des années à discuter. Sur un sujet, on rediscute, et qu'est-ce que tu dis? Et puis bon, voilà, personne n'a rien compris, personne ne sait où on va, et personne n'a rien retenu pour son édification personnelle. Donc il faut dans l'Église des temps où l'on peut partager, où l'on peut discuter, mais tout doit se faire pour l'édification. Et si ça ne sert pas à l'édification, ça doit être rejeté. Et c'est très important parce que sinon, on devient des bacs à sable. On devient des bacs à sable où on ne grandit pas. J'édifie le corps lorsque je refuse les critiques ou les jugements. J'édifie le corps lorsque je prie, lorsque j'intercède pour mes frères et sœurs dans l'Église. J'édifie lorsque je prie pour eux. J'édifie lorsque je suis loyal envers les responsables, lorsque je suis fidèle à mes engagements. J'édifie l'Église quand je suis fidèle à mes engagements, quand je fais ce que je dis que je dois faire. J'édifie l'Église quand je choisis de ne pas répandre le découragement, le défaitisme, le négativisme autour de moi. Vous connaissez ce texte des explorateurs qui ont été voir la terre d'Israël. Dieu leur dit, allez voir, allez explorer le pays. Et puis qu'ils reviennent et qu'ils disent, oui, mais ils sont gros comme des géants et ils avaient des grappes de raisin qu'on devait porter à plusieurs. Et finalement, le peuple est découragé d'entendre ça, alors que c'est le lieu où Dieu veut qu'ils aillent, mais ils sont complètement découragés. Parfois, on peut être comme ça, on peut répandre le découragement autour de nous. On peut répandre le découragement dans l'Église.
Et alors là, on n'édifie pas, on ne fait pas grandir. Au contraire, on fait baisser la foi, l'engagement, la ferveur. Vous connaissez ce qu'on appelle la sinistrose, parfois. Ça non plus, vous ne connaissez pas. Bonsoir. Je vais m'habituer à ce que vous ne connaissez jamais rien, mais ce que la sinistrose, c'est une façon de dire la mauvaise humeur ou la dépression qui se répand. Hein, bon, voilà. De toute façon, vous ne connaissez pas, donc ça ne sert à rien. J'édifie l'autre quand je suis capable de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, quel que soit le prix. Quel que soit ce qui m'en coûte, j'édifie l'autre. J'édifie lorsque je sers avec obéissance, avec humilité, avec fidélité, avec amour, avec dévouement. J'édifie le corps lorsque je valorise la différence et la complémentarité. Lorsque je valorise la différence et la complémentarité. J'édifie lorsque je respecte les ministères des autres, les appels des autres, les vocations des autres, et lorsque je reste à ma place. On doit apprendre ça. On édifie lorsqu'on respecte les autres. On respecte les appels, on respecte les dons. Il y a des gens qui ont le don de gérer les travaux. Ce n'est pas moi qui vais aller dire à David Collet, « Oui, mais non, on fait ça comme ça, alors que je n'y connais rien. » Ce n'est pas moi qui vais aller dire à Rose, « Écoute Rose, mets la comptabilité comme ça. Je n'ai jamais fait une comptabilité de ma vie. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. » Je respecte son travail à elle. Je respecte son appel, sa vocation, son travail. Et je ne vais pas m'imposer et sortir de mes limites pour dire, ben non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc j'édifie l'Église lorsque je reste à ma place, lorsque chacun est à sa place, lorsque chacun fait ce qu'il doit faire, eh bien on a ce qu'on décrit dans Éphésiens 4, cette croissance ordonnée, coordonnée. Vous avez lu Éphésiens 4? Vous avez lu la description qu'il fait de l'Église? Quand on lit ça, on n'a pas l'impression que c'est un lieu où c'est la foire, où c'est... C'est une croissance ordonnée, coordonnée. Chacun étant dans sa place et les choses se coordonnent pour la croissance du corps. Édifier l'autre. En conclusion, cherchons à être des chrétiens qui s'édifient et qui édifient les autres. Faisons le choix d'être une église qui édifie, qui cherche l'édification, qui rejette tout ce qui n'édifie pas. Et qui se centre sur l'objectif que Dieu nous donne, nous édifier, s'édifier soi-même, édifier les autres, édifier le corps. Être des chrétiens qui recherchent l'édification ardemment, même lorsque ça les fait souffrir. Même lorsque ça les fait souffrir, même lorsque c'est une souffrance pour eux, parce que je préférerais mettre mon ego en avant, ou mon opinion en avant, mais je cherche ce qui édifie. Soyons des chrétiens en qui la parole du Christ habite abondamment, pour édifier les autres. Soyons des chrétiens qui ont fait un pacte avec leur bouche pour ne dire que ce qui est vrai, que ce qui est bien, que ce qui est utile, que ce qui édifie. Et soyons des chrétiens vraiment intéressés par l'autre, vraiment intéressés par l'autre et par l'intérêt du corps, vraiment intéressés par l'édification de l'autre. Je veux que l'autre avance, je veux que l'autre aille de l'avant et par l'édification du corps. Et on a une petite description de ce chrétien édifiant dans Ésaïe 50, verset 4. Il nous donne un peu les deux grands aspects du fait d'être un chrétien édifiant. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le Seigneur m'a donné une bouche pour soutenir par la parole celui qui est abattu, pour édifier l'autre, pour faire grandir l'autre, pour soutenir l'autre. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Donc on a les deux aspects. Non seulement ce chrétien édifiant, il a une oreille pour écouter ce que dit le Seigneur comme un disciple, comme un apprenti, comme un élève. Il se met à l'écoute de Dieu. Il se laisse enseigner pour être édifié lui-même. Mais ensuite il a une bouche qui édifie. Il cherche à édifier, il cherche à faire grandir et il rejette tout ce qui n'édifie pas. Amen.